Ben, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canal info. Ah, ah. Mais, pas. Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quel heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis ta question 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est tout si tu portes une casquette. C'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, quand ton alcoolémie et ton touchy. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes, trois moustachus dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
Chaîne de Douai, pompe de Douai, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu info du vendredi.
Bonsoir. Le Canu Info du vendredi commence. Ah, j'avais oublié la petite musique, voilà. Et ouais, et du coup, ce soir, dans le Canu Info, eh ben, on retrouve des jingles d'avant. Mais de quoi on parle, surtout d'abord au local, on parle...
On va parler de la marche des sans-papiers, on va écouter un petit reportage.
Et puis ensuite, on va parler logement avec un bug informatique qui déstabilise l'hébergement des personnes à la rue.
On passera ensuite au national avec un petit point sur la loi ASAP.
Ensuite, un petit retour sur le discours de Macron, discours un peu rance.
Ensuite, on va aller à Toulouse où 7 compagnons et compagnonnes partent en tôle suite à des tags et des affiches.
Et on verra ensuite comment la semaine pro sera quoi, sera anti-nucléaire.
Bonne écoute du Canu Info. Ah non, c'est pas terminé.
Oui, mais attends, il est, de quoi on va parler d'autre? On va parler de choses à l'international aussi, bien sûr.
Et le soutien à Vincenzo Becci.
Et puis donc, on parlera ensuite, puisqu'on parlait de Vincenzo Becci, italien. On parlera du mouvement Notave de l'autre côté des Alpes et de la répression. Un militant est en prison.
Un petit tour aux USA et au Texas où on parlera fracturation hydraulique et discrimination.
Et pour terminer, ce sera la rubrique Agenda.
On écoute.
Ah ouais, mais parce que je voulais juste rappeler que bien sûr les Canu Info du vendredi se terminent par un ACAB, et du coup si vous avez une idée d'ACAB, je rappelle, donc du coup un truc qui commence par la lettre A, la lettre C, la lettre A, la lettre B, vous pouvez appeler le 04 78 39 18 15. Tu voulais dire quoi du coup?
Je voulais dire bonne écoute avec les Canu Info du vendredi.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhônais de la région qui s'appelle Stéphane Guillon.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjoués par la voix sur le rassemblement pour le mal de Lyon.
Canu Info du vendredi.
Les personnes sans papier payent le prix fort de la crise sanitaire liée au Covid-19. Macron n'a rien entendu lors des mobilisations du 30 mai puis du 20 juin partout en France. Alors, la mobilisation s'amplifie et, à l'appel de 19 collectifs de sans-papiers, de la Marche des Solidarités, des États généraux des migrations et de plus de 200 organisations, les sans-papiers partent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour traverser le pays en marchant et converger en une grande manifestation à Paris le samedi 17 octobre. les marcheurs et marcheuses partis de Marseille et Montpellier le 19 septembre, celles et ceux de Grenoble, partis le 29, sont arrivés à Lyon hier et aujourd'hui, avant de repartir vers le nord ce dimanche. Le Canu Info du vendredi était là pour les accueillir, hier, à Vénissieux. Reportage.
À belle preuve aujourd'hui, on a démarré à 10h sous une forte pluie. Et le maire de Chassin-sur-Rhône a marché près de 10 km, près de 2 km, tant mieux pour moi, avec nous. Et puis ça nous a vraiment remonté le moral. Et après, on a pris une photo, une vue d'ensemble avec lui devant sa mairie. Et voilà un peu ce que je pourrais vous dire tout de suite. Là, nous sommes à on appelle la ville, Vénissieux. Une belle ville qu'on vient de découvrir, près de 70 000 habitants, une très belle ville. On a été vraiment séduit par cet accueil chaleureux déjà à l'entrée de la ville, parce que nous avons mis un peu d'ambiance. Nous sommes rentrés de façon très triomphale dans la ville. Et vraiment, il y a les associations là, les médecins du monde, pour quand même se battre après pas moins de 12 jours de marche. Les images sont là, c'est des bobos, les gens, des pieds, c'est dur, mais on ne lâche pas. Nous sommes décidés à foncer. Ça ne nous décourage pas, mais donc on est là vraiment. Et on va passer 4 jours ici.
Bienvenue. Le collectif 69 de sans-papiers est heureux de vous accueillir. Ici, c'est le point de départ de la marche de 1983 pour la dignité. Et on a choisi cette place aussi pour accueillir nos marcheurs du Sud aujourd'hui. Soyez le bienvenu chez nous, à Lyon, à la collectif 69.
Il y a eu la marche européenne, il y a eu la marche Paris-Nice,
ça, c'était il y a 10 ans.
Et il y a eu la marche solidaire, qui tout récemment, en 2018.
Donc nous avons décidé de faire cette marche parce que le 30 mai, nous avons fait une marche, on a mobilisé dans les rues de Paris plus de 10 000 personnes. Donc pour la régularisation, voilà, pour aussi la fermeture des centres de rétention administrative, mais aussi pour le logement pour toutes et pour tous. Mais le gouvernement n'a pas répondu à nos doléances. Nous avons fait 2 semaines après une autre plus grande manifestation le 20 juin. Donc il y avait dans les rues de Paris plus de 50 000 personnes. Donc moi, en 9 ans de présence en France, j'ai jamais vu autant de soutien, autant de sans-papiers dans les rues. Mais toujours rien de la part du gouvernement. C'était l'acte 2. Nous avons décidé alors d'organiser cette marche, je crois bien, qui sera historique, donc qui regroupe plus de 13 villes de France. Donc il y a eu deux départs à Montpellier le 19 et un départ à Marseille. Aujourd'hui, nous sommes ici à Vénissieux pour aller demain vers Lyon.
Nous avons démarré de Marseille le 19 septembre. Nous avons effectué jusqu'à ce jour 418 kilomètres.
Donc on préparait cette marche depuis 2 mois et demi. On ne sait pas le jour du jour au lendemain pour faire une telle manif. Tout a été planifié, c'est des réunions au niveau national comme local. Et tout se passait comme en réunion Zoom. Et tous les collectifs participaient. Et il faut saluer quand même le soutien, la CIMAD et Solidaire National, les associations qui, il faut l'avouer, sans eux, nous ne pouvons pas être là parce que les sans-papiers n'ont pas de ressources. Nous n'avons pas les moyens de faire ce que nous sommes en train de faire. Ils nous accompagnent et c'est ça d'ailleurs qui galvanise notre morale. Et nous avons démarré le 19 septembre dernier à Marseille.
Bonjour à tout le monde. Je remercie tous ceux qui sont là pour nous soutenir pour cette marche de la dignité. C'est une marche pour la liberté et une marche pour la justice, une marche pour les droits des hommes. On a organisé, comme les camarades l'ont déjà dit, l'acte 1, l'acte 2, sans vraiment être entendu. Maintenant, l'acte 3, on espère vraiment que ça soit le dernier acte et que l'Élysée et le gouvernement prendra en compte les souffrances des sans-papiers. Les sans-papiers sont des travailleurs. Les sans-papiers sont les deuxièmes de la corvée dans la lutte contre le Covid. Les sans-papiers étaient en deuxième ligne. C'était les ébouilleurs, c'était les assistants à l'aide à la personne, c'était les caissières, c'était les aides ménagères. C'est eux qui faisaient le ménage dans les hôpitaux pour que les soignants puissent travailler correctement. Les sans-papiers participent effectivement à l'économie française parce qu'on paye des droits, on paye des cotisations et on paye même des impôts à la France. Et franchement, quand on ne donne pas les papiers pour être régularisé, on dit que ce n'est pas admissible. Le droit à la circulation et le droit à la résidence est un droit international. Donc on veut que ce droit nous soit acquis. Et voilà, donc la marche, on va le faire. C'est une marche, même si c'est ailleurs qu'à l'Élysée, on le fera pour obtenir nos droits. Merci à tout le monde et merci au peuple français. Je tiens à le souligner.
C'est un travail de plus de 3 mois. Nous ne sommes pas levés du jour au lendemain pour décider de marcher de Marseille à Paris. C'est un travail qui a été fait depuis 3 mois. Nous avons commencé des réunions au niveau national comme au niveau local. Et la marche a démarré le samedi 19 septembre dernier à Marseille. Nous avons mis de l'ambiance, nous avons mis du feu dans Marseille. Nous avons parcouru toutes les grandes villes. Et j'avoue, partout où nous sommes passés, dans toutes les grandes villes où nous sommes passés, nous avons été accueillis à cœur ouvert. Les populations nous ont acceptés. Nous avons même traversé des villes du Front National. Et à notre grande surprise, vraiment, on a été très bien accueillis. C'est des coups de klaxon sur tout notre parcours, des mains levées, des mains de signes de victoire qui nous accompagnaient partout où nous passons. Hier, nous avons passé la nuit à Chasse-sur-Rhône, et dans la belle et bassin nautique de Chasse-sur-Rhône. Et la surprise, c'était quoi? C'est le maire de cette ville qui est venu très tôt ce matin nous réveiller. Déjà à 8h30, il était là. Le maire était là, ça nous a surpris. Et ça nous a fait du baume au cœur. Le maire a dit quoi? Je suis prêt à vous accompagner dans votre lutte. Je suis prêt à vous soutenir. Quand nous avons la chance d'avoir de telles personnalités à nos côtés, ça veut dire que notre combat, vraiment, c'est un combat vraiment légitime. Nous sommes dans une bonne dynamique. Et c'est la deuxième fois que nous avons eu un élu, une telle personnalité. Nous avons été aussi à Loris, nous avons eu la visite du maire de Loris. Loris qui est une petite ville à côté de S en province. Et voilà, et nous continuons notre parcours. Nous aurons la chance de passer 4 jours dans Lyon. Et ces 4 jours, vraiment, nous allons mettre l'ambiance qu'il faut. Nous sommes là, nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux comme le signifie nos slogans. Nous sommes des sans-papiers. Nous contribuons à l'économie française.
Le peuple français est formidable. Malgré qu'il y ait des couacs, mais on a vu tout le long de la marche un peuple formidable. Un peuple qui nous a soutenus, qui a été solidaire. Un peuple qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts. Ce sont les politiques qui font la division avec des lois et des sanctions contre nous. Mais on dit que le peuple est solidaire et tous les peuples du monde sont les mêmes peuples, les mêmes combats et les mêmes injustices que nous combattons. Merci et merci encore à tout le monde.
Je passe le micro. Thank you.
Les papiers, les papiers, les papiers. Merci, merci, merci.
Et si vous voyez les t-shirts là, ils sont tous marqués derrière. C'est les trois principales revendications. C'est la régularisation pour toutes et tous, et un logement pour toutes et tous, et la fermeture des centres de rétention.
Vous êtes combien là maintenant?
On est 47 marcheurs.
47
marcheurs. 47 camarades et militants qui se battent pour les droits fondamentaux des êtres humains.
Et tu sais combien de personnes arrivent de Grenoble demain?
Il y a 27 personnes qui arrivent de Grenoble demain.
Ok.
Le meilleur souvenir de cette marche est que de voir mes camarades en pleine forme chaque jour avec des ampoules, avec des difficultés des jambes qui se donnent la force pour marcher, pour revendiquer tout ce qui est les droits fondamentaux de l'être humain et la régularisation de toutes les sans-papiers, logement décent pour toutes et tous et la fermeture des centres de rétention administrative et la liberté de circulation et d'installation.
Il faut qu'on être présent à cette marche parce que on a un sentiment qu'on va réaliser quelque chose. La marche, c'est notre solution maintenant. Surtout avec les Covid-19, il faut qu'on continue. On lâche pas cette marche, on recule pas. Jusqu'à Paris, il faut continuer cette marche. Déjà, on a les exemples là de 83 sont déjà ici. Ils nous encouragent pour continuer cette marche. Même si on ne réalise rien, mais c'est un souvenir qui est être à l'histoire. Quoi.
Ouais. Ouais. Il est dit, c'est devenu par rapport à l'épidémie de Covid-19 qui a lancé le 17 mars. Alors on n'était plus touché, les sans-papiers régulières, on n'a plus de droit d'accès de droit, d'accès de travail, d'accès de logement, plus rien pour faire notre vie tranquille comme tous les citoyens français. Alors ce qu'on a décidé au début de créer notre collectif ici, soit au niveau national, bien sûr d'abord ensemble pour notre régularisation sans exception.
Quand on était à Valence, on a eu une soirée, une belle soirée. Après, on est rentré à Valence autour de 21h. Tout le monde, après avoir parcouru près de moins d'une quarantaine de kilomètres, malgré que les jambes sont lourdes, on a mangé. Il y a une cantine mobile qui nous accompagnait, dont les repas étaient pratiquement prêts. On a mangé et après, entre marcheurs, on a mis de l'ambiance, nous avons dansé. On a créé notre discothèque traditionnelle, permettez-moi de le dire. On a mis des choses et jusqu'à, malgré que nous allons nous lever le lendemain à 10h, on est allé jusqu'à 3h du matin de danse. Et vraiment, c'était de très moments conviviaux qu'on a partagés. Et si c'était à refaire, on allait le refaire après le 17.
Nous sommes là aujourd'hui à Vénissieux. Est-ce que Vénissieux est présent?
Oui!
Merci. C'est grâce à vous que nous menons ce combat. Et nous marchons, ça fait plus d'une semaine que nous marchons vers l'Élysée. Et nous marchons ensemble, hommes et femmes. Donc, nous disons non à cette oppression. Nous disons non à tous ceux qui oppriment les plus faibles. Donc, nous réclamons tout simplement la régularisation de toutes et tous les sans-papiers. La lutte continue, papier pour tous. Merci.
Et soufflez, chers camarades. Souffrez que je fasse une petite rectification. On nous colle un nom très vulgaire. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous sommes plutôt des demandeurs de papiers. J'ai un acte de naissance. Il a un acte de naissance. Nous tous, nous avons des actes de naissance. On nous colle un nom qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous sommes plutôt des demandeurs de papiers. Merci de l'accepter.
À l'initiative du collectif des sans-papiers de Lyon et du collectif de soutien aux réfugiés et migrants, un appel est lancé à manifester à Lyon demain, aux côtés des sans-papiers qui marchent vers l'Élysée.
Nous arrivons à Paris le 17 octobre prochain. Et le 17 octobre prochain, pour l'avoir, nous avons déjà adressé une lettre d'audience, de demande d'audience à l'Élysée. Et on n'a pas encore eu un retour. Mais vu à l'allure où vont les choses,
sommes certains, sous réserve de confirmation, que l'Élysée n'aura d'autre choix que de nous recevoir. Parce que toutes les villes où nous passons, les gens nous voient, il y a déjà de la visibilité. Et après être reçus par la grâce de Dieu, par le président Macron, nous allons faire une assemblée générale de tous les sans-papiers et beaucoup d'autres activités. On aura un grand concert. On va quand même, après l'effort, c'est le réconfort. Voilà un peu.
On va donner la parole à Raphaël pour l'hébergement. Tous les marcheurs sont hébergés chez l'habitant. Soirée à l'ECG, si vous voulez, on peut prendre un repas collectif à l'ECG, ce qui permettra de discuter ensemble et de prendre aussi quelques décisions pour la journée de demain.
Toujours au niveau local, il y a eu un rassemblement pour Douna mardi dernier, le 29 septembre. Le 23 septembre dernier, Douna, une étudiante transgenre de Montpellier, s'est suicidée. Plusieurs rassemblements ont eu lieu en France, dont celui de Lyon qui a eu lieu devant le Crous, rue de la Madeleine. Elle était logée en résidence universitaire à Montpellier et était connue de la médecine préventive de l'université Paul Valéry pour avoir déjà fait plusieurs tentatives de suicide. C'est le syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM, qui a d'abord sonné l'alerte dans une lettre adressée au Crous après le suicide de la jeune femme, alors que des proches sont venus lui rapporter que quelques heures avant, on l'a menacé de ne pas refaire de tentative de suicide sous peine d'être expulsé de son logement et voir sa bourse lui être retirée. Le directeur général du Crous Montpellier Occitanie s'en est défendu et assure que les équipes du Crous ont fait preuve de dévouement et professionnalisme dans l'accompagnement de Douna, mais les événements montrent bien l'inverse. Une nouvelle fois, les institutions et les instances universitaires nous montrent leur grande carence en ce qui concerne les moyens déployés pour la santé des étudiants et étudiantes précaires et l'inadaptation des suivis des personnes LGBTQI+. Selon plusieurs études, les personnes trans sont bien plus susceptibles de se donner la mort que les personnes cisgenres. En effet, elles se retrouvent face à la transphobie institutionnelle des services de santé et en subissent parfois de grandes violences, alors même qu'elles étaient venues chercher de l'aide et des soins. Elles se retrouvent à ne plus les solliciter, jusqu'à en mettre leur propre santé en péril. Aujourd'hui, un nombre considérable d'étudiants et étudiantes et des personnes trans n'ont pas accès aux services de santé par manque de moyens ou d'accessibilité et ont des mauvaises expériences avec les services sociaux censés les aider. Pendant les rassemblements en hommage à Douna, des mesures concrètes ont été réclamées, comme par exemple des formations pour les personnels Crous et hospitaliers aux questions LGBTQI+ et relatives à la santé mentale, l'interdiction pour le Crous d'exclure les étudiants et étudiantes de leur logement, la création de cellules psychologiques non mixtes LGBTQI+ pour les accompagner au mieux, qu'une commission contre les discriminations au Crous ainsi qu'un fonds d'aide aux personnes transgenres soient mis en place, que des moyens concrets, humains et financiers soient mis en place pour lutter contre la précarité étudiante, la gratuité et la simplification dans les parcours de transition, que cela soit administratif ou médical, l'autodétermination des personnes concernant leur genre, la non-stipulation du genre dans les démarches administratives et universitaires. La transphobie et la violence ne se résument pas aux agressions physiques contre les personnes LGBTQI+. Dans le monde médical, la non-reconnaissance de leur identité, la psychiatrisation, des traitements médicamenteux lourds et intrusifs imposés, le flicage pour les personnes souhaitant faire une transition, la culpabilisation, etc., font partie de ce qui est reproché aux soignants non formés aux questions transgenres. Mais aussi dans toutes les autres sphères de la société, les sales blagues, les insultes, les représentations erronées et au quotidien la non-reconnaissance de leur identité. Ce sont toutes ces violences et autant de blessures qui se sont exprimées au mégaphone devant les locaux du Crous. État coupable, Crous responsable.
La question du manque de logement, vous le savez très bien, c'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les ministre du Logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique Droit au Logement.
Et ouais, qu'est-ce qui se passe à Lyon, mais partout, pas qu'à Lyon en fait, c'est qu'il y a le suivi des sans-abri, et surtout en fait les sans-abri on s'en fiche un petit peu, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais du coup là le problème, c'est le suivi des places d'hébergement, qui est gravement perturbé partout en France depuis le 21 septembre. Et alors vous me direz, pourquoi le suivi des places d'hébergement, enfin c'est pas, enfin vous dire qu'il y a tellement peu de places d'hébergement, du coup on s'en fout un peu que le suivi soit mis en place, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup depuis le 21 septembre, ce qui se passe, c'est qu'il y a la mise en place d'un nouveau logiciel. Comment s'appelle ce nouveau logiciel? SISIAO. Pourquoi SI? Parce que système informatique, SIAO, parce que service intégré d'accueil et d'orientation. Le service intégré d'accueil et d'orientation, c'est quoi? C'est l'endroit où on regroupe toutes les demandes d'hébergement et toutes les places d'hébergement. Du coup, il y a depuis 2018 la volonté au niveau de l'État de mettre en place un nouveau logiciel commun à tous les SIAO, du coup ce fameux SIAO qui du coup en France permettrait de rassembler toutes les demandes d'hébergement de toute la France et toutes les places d'hébergement de toute la France. À quoi ça amène ça? Ça amène à coordonner l'hébergement d'urgence. En gros, ça veut dire éviter que des personnes fassent une demande d'hébergement dans différents départements et comme ça, essayent d'être hébergées plus rapidement. Donc le but à la base de la mise en place de ce logiciel, c'était déjà de pouvoir fliquer tout le monde et de pouvoir suivre et savoir, ok, telle personne, elle a refusé un hébergement tout pété dans tel département. Du coup, il n'y a pas de raison qu'on lui refile un hébergement plus rapidement dans un autre département. Donc il y avait déjà à la base, dans la mise en place de ce logiciel, une volonté de fichage. Alors, eux, ils nous disent que ça va permettre de coordonner, de fluidifier, de faciliter l'hébergement des personnes. Donc on dit pourquoi pas. Seulement, le logiciel a été mis en place le 21 septembre. Et depuis le 21 septembre, les acteurs et les actrices de terrain parlent d'un chaos, d'une histoire de fou, d'un truc pas possible. On retrouve un article formidable sur Mediapart qui nous raconte comment les acteurs et actrices de terrain, les travailleurs et les travailleuses sociales, tous les jours, se mettent à galérer comme pas possible depuis le 21 septembre et la mise en place de ce logiciel qui, du coup, le but, c'était de fusionner un peu à tout, toutes les personnes qui appellent le 115, tous les travailleurs et travailleuses sociales qui entre des choses sur les personnes qu'elles hébergent, tous les travailleurs sociaux aussi qui accompagnent les personnes sur les hébergements d'insertion, sur les logements, de tout fusionner, tout ça, en réalité, en fait, il y a tellement de bugs qu'il y a énormément de problèmes. Donc d'abord, je ne vais pas vous dire tous les bugs, mais en gros, grossièrement, par exemple, il y a des trucs où il y a un centre qui fait 150 places, et du coup, ils disent qu'il y a 150 places disponibles, alors qu'en fait, il n'y a que 2 places disponibles. Donc concrètement, ça veut dire que c'est impossible d'orienter personne. Ça veut dire que certains centre, il y a des personnes qui se trouvent orientées là-bas, qui pensaient que c'était pour plusieurs nuits, en fait c'est que pour une nuit. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une place d'hébergement, ils se pointent et en fait il n'y a pas d'hébergement. Et surtout, il y a énormément de personnes là qui du coup se sont pas vues proposer l'hébergement parce qu'en fait c'est tellement compliqué qu'il faut vérifier les places une par une, que c'est un bordel pas possible, qu'il faut s'appeler entre chaque hôtel, entre chaque hébergement, entre chaque écoutant de 115, que du coup il y a beaucoup moins de places qui sont données. Donc ça, vous me direz, c'est le temps du bug, d'ici il y a plein d'informaticiens, d'informaticiennes qui vont s'y mettre, d'ici 2 semaines, ça va aller mieux. À la rigueur, peut-être, mais pendant ces 2 semaines, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se retrouvent à la rue quand même pour pain rond, tout ça parce qu'on a voulu faire un gros logiciel qui permettait de fliquer les gens. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de données qui ont été perdues. Rien que sur Paris, il y a au moins 2600 dossiers qui ont disparu. Donc ça veut dire 2600 personnes qui avaient une demande d'hébergement, qui pensent avoir fait leur demande d'hébergement et qui l'ont perdue. Du coup, le temps de retrouver toutes ces personnes, en fait, ça va être impossible. Donc il y a plein de personnes qui vont attendre plusieurs années un hébergement, alors même que leur dossier a été perdu, tout ça, pas parce que elles ont fait des bêtises, mais parce que le gouvernement a voulu mettre en place un logiciel qui ne fonctionnait pas. Et il y avait d'autres bugs, j'avais trouvé des trucs rigolos sur les bugs, il y avait... c'est tout. Ah oui, si, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que du coup, ils avaient oublié de donner les notices, en fait, donc les gens avaient reçu un logiciel, donc tous les professionnels avaient un logiciel, mais en fait, ils ont eu qu'au bout d'une semaine et demie la notice pour servir du logiciel, donc tout le monde était devant le logiciel à dire « Merde, je comprends rien » et tout. Mais en fait, c'est parce qu'on leur avait pas expliqué comment servir de ce logiciel-là. Et du coup, on se demande qui a fait ce logiciel. Bah, je vais vous dire le nom de l'entreprise qui a fait le logiciel. Ça s'appelle Netapsis. Alors, c'est pas de bol parce que Netapsis vient juste d'être racheté par Sodi France et qui, bah, du coup, va pas tarder à être racheté par Nexa France ou un truc comme ça. Et du coup, ça serait un leader de la transformation numérique. Donc, bon. Je ne sais pas où sont leurs bureaux, mais si jamais vous les trouvez, vous avez qu'à appeler le Canu Info du vendredi, puis on vous dira ce que faire pour résoudre leurs problèmes informatiques. Donc, bah, Mediapart, ils sont malins, ils ont appelé Emmanuelle Wargon, qui est la ministre du Logement, mais pour l'instant, elle a dit qu'elle allait vérifier les informations. Donc on attend qu'elle vérifie les informations, et en attendant, nous, on vous donne nos informations. Et ben, c'est que ça fout quand même une grosse merde, que l'hébergement des personnes à la rue n'avait pas besoin d'avoir un merdier pareil, que à Lyon, c'est 9000 personnes qui sont enregistrées dans ce logiciel, qui sont en demande d'hébergement, et que depuis le Covid, depuis à peu près 6 mois, en fait, les délais s'allongent énormément. Par exemple, l'année dernière, on était à 8 mois pour une personne qui a des papiers d'attente pour un hébergement, et là, on passe à 1 an et demi. Alors pour une personne sans papier, on est passé de 2 ans à 4 ans en moyenne. Donc autant vous dire que le prochain ou la prochaine qui a envie d'inventer un logiciel, je vous conseille de vérifier un petit peu comment ça marche, sinon ça va saouler une ou deux personnes.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, au national, vous en avez certainement entendu parler tout au long de la semaine. L'Assemblée a commencé à examiner cette semaine la bien nommée loi ASAP. As soon as possible, mais aussi accélération et simplification de l'action publique. Alors, on en a entendu parler notamment dans les copines du Canu Info du lundi. On aura pu lire plusieurs articles dans divers médias. Là, c'est d'un article de Reporter publié le 29 septembre dont on va vous parler. Alors, cette loi, en gros, c'est un gros pavé, plus de 80 articles différents, avec des sujets divers et variés. Mais une ligne directrice qu'on commence à vraiment bien connaître maintenant et surtout à reconnaître de loin. Une loi, caisse enregistreuse des desiderata des lobbies industriels et au passage, quelques bons petits saccages des droits publics acquis. Rapprocher l'administration du citoyen, simplifier les démarches, blablabla, et faciliter le développement des entreprises. Donc c'est dit, c'est clairement annoncé, et en effet, s'il y a bien quelques mesures de simplification des démarches relatives au permis de conduire ou à la carte nationale d'identité, il y a surtout un énorme coupage dans le vif des commissions administratives, c'est-à-dire au prétexte de raccourcir les procédures et d'aller plus vite, et on va faire moins intervenir les gens. Il y a aussi la privatisation de l'ONF, donc l'Office National des Forêts. On peut clairement faire confiance aux industriels pour gérer ce bien commun tout à fait correctement. Fini aussi les publications de données jusque-là publiques sur les entreprises. Secret des affaires étendu, à savoir on peut être attaqué si on a divulgué des infos qui peuvent porter atteinte aux intérêts et aux gains de l'entreprise. Auquel vient s'ajouter également le secret industriel et commercial qui sera dorénavant appliqué maintenant aussi aux infos à caractère environnemental. Donc il fallait savoir que jusque-là, n'importe qui pouvait demander à une administration publique de lui communiquer des données si elles avaient un caractère environnemental, ce qui était bien pratique pour enquêter individuellement ou de manière citoyenne, et aussi pour intenter des actions en justice. Tout ça, c'est terminé. Si la loi passe. Possibilité de commencer à construire avant même d'avoir fait l'étude d'impact sur l'environnement de cette construction. Impact qui d'ailleurs ne sera plus considéré de manière globale mais complètement segmenté. À savoir, je veux construire, je sais pas, une station d'épuration, je vais considérer différemment les aménagements routiers, la création des bassins, la modification du paysage, plutôt que de prendre en compte l'ensemble de l'impact de l'installation sur l'environnement. Et aussi facilité d'expulsion et amendement anti-squat. Bref, cette loi ASAP, c'est un véritable festival.
Alors, tout le monde le dit, c'est un gros fourre-tout, mais quand même quelques petites pépites citées dans l'article de Reporter. Alors, dans les gagnants, nous avons l'article 23, qui prévoit que si un nouveau site industriel s'implante dans un lieu où d'autres sont déjà installés, on étudiera les dégâts que de ce nouveau site et donc pas ceux cumulés de toutes les activités. Alors, on se rappelle de l'accident de Lubrizon d'il y a un an. Et là, en fait, on a pu constater que les effets cumulés, ils existent bien. En effet, les entrepôts voisins du site Lubrizol, NL Logistique, ayant eux aussi largement brûlé. Ensuite, article 24 bis qui concerne la possibilité pour les citoyens et citoyennes de demander une concertation pour certains projets. Bon, on accorde l'importance qu'on voudra à ce que fait après le pouvoir public de ces concertations, mais n'empêche qu'au moins la possibilité existait aux citoyens et citoyennes de demander ça. Maintenant, on peut toujours le faire, mais le délai pour le faire est raccourci de 4 à 2 mois. Il y a intérêt à être actif. L'article 25 bis A qui lui précise que donc, les citoyens ont bien droit à l'information concernant les risques auxquels ils sont soumis, mais dans la limite du secret des affaires. Donc si jamais c'est préjudiciable pour l'entreprise, dans le cululu. Et enfin l'article 28 qui permet à des sites industriels situés à proximité puissent avoir accès à des tarifs préférentiels d'achat d'électricité. Évidemment, pour les grosses industries, c'est important de leur faire des réducs. Par contre, toi, moi, nous, qui galérons à payer nos factures d'élec, et bah pareil dans le cululu. Et enfin, pour terminer, le superbe amendement anti-squat déposé par Carbarion, qui étend la possibilité d'expulser des personnes qui occupent une propriété ou résidence secondaire ou occasionnelle. Alors, il faut savoir qu'en fait, occasionnel, ça n'existe pas dans la loi. C'est l'association Droit au Logement qui le dénonce et qui dit que ça risque d'étendre la possibilité d'expulser un logement vacant à une ruine, un terrain ou tout espace sur ou dans lequel un propriétaire s'est établi ne serait-ce que quelques heures. L'association demande le retrait de cet article de la loi. On ne peut que la soutenir, elle et toutes les autres orgas et collectifs qui seront prêts et prêtes à entamer la lutte contre cette loi. Mobilisons-nous toutes et tous, le combat sera rude, mais il en vaut le coup. Surtout, faut pas laisser passer ça.
Et donc, en début d'après-midi, Emmanuel prononçait un discours dans les Yvelines. Discours très attendu si on en croit les journalistes du Monde et la plupart de nos confrères. Nous, on l'attendait pas trop, le discours d'Emmanuel, et pourtant, ça l'a pas arrêté, il a donc parlé. Longtemps. Il a parlé longtemps. Alors, il y a encore 10 ans, on croyait souvent que la communication politique était un savant art de la mesure et de la finesse manié par des stratèges chuchotant à l'oreille des princes à chevaux, comme autrefois Machiavel à l'oreille des puissants Médicis de Florence. Je sais pas qui est le mec qui chuchote à l'oreille du cheval d'Emmanuel, mais franchement, cet après-midi, c'était quand même grossier. Peut-être que c'est aussi l'habitude de revoir les mêmes grosses ficelles pendre derrière le pupitre des guignols élus, leur manière de mobiliser à peu près toujours les mêmes épouvantails auxquels ils adjoignent toujours les mêmes recettes rances. Oui, je sais pas si c'est une histoire d'habitude, mais ça paraît de plus en plus grossier. C'est difficile, vous me direz. Avant, on avait quand même Sarkozy, Hortefeux, Guéant, Valls, Cazeneuve, une ribambelle de personnes plutôt bien grossières, prête à vomir du musulman, à mobiliser la laïcité comme bouclier, comme identité aussi. En fait, c'est sans doute que ça a toujours été grossier, les discours de la République qui parlent de la République. Depuis 2 bonnes grosses décennies, il y a pour ça un nuage magique de mots à mobiliser. Donc il y a laïcité, identité, parfois on dit identité nationale, on dit aussi les lumières, on appuie un peu sur le L, ça, parce qu'il y a un L majuscule, les lumières, la liberté d'expression, les droits de l'homme, il y a 2 majuscules, et puis en opposition, ils disent islam, voile, communautarisme, et donc avec ce gouvernement, ils disent aussi ensauvagement, et là, cet après-midi, Emmanuel, il a dit séparatisme islamiste. Voilà, il a dit ça cet après-midi, Emmanuel, il a dit il faut s'en prendre au séparatisme islamiste qui tente parfois, je cite, de verser le sang comme vendredi dernier à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. Ça, c'est pour la petite touche de storytelling, la petite histoire qui fait peur. Raconter l'histoire du mec complètement perdu et violent qui plante des inconnus dans la rue, se demander sur toutes les chaînes s'il a bien dit Allahu Akbar avant de donner les coups, et puis reprendre toute cette merde dans les discours racistes, haineux, et donc cet après-midi, le discours islamophobe d'Emmanuel. En même temps, la veille, et même tous les jours sur les plateaux télé français, on lui prépare le terrain à Emmanuel, pour qu'il puisse placer tranquillou, l'idée que s'il y a un problème social, il est lié à l'islam radical. Et dans le concours de qui détient le plus vichiste des plateaux télé, il faut bien dire que c'est Vincent Bolloré, le patron de CNews, qui a gagné. Vincent Bolloré, le patron de CNews, s'est procuré au dernier mercato la star des chroniqueurs racistes, Zemmour, Eric, condamné cette semaine à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale, alors qu'il était à l'époque sur LCI, une chaîne qui appartient à Bouygues. Zemmour, donc débarqué de chez Bouygues depuis la rentrée pour sévir chez Bolloré, déclarait tranquillou mardi à propos des mineurs isolés étrangers qui demandent l'asile en France. Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer. Voilà, on est en 2020, heure de grande écoute sur une télé française qui fait de très bonnes audiences. C'est le paysage général et on a donc Emmanuel, cet après-midi, qui prononce un discours dans cette ambiance générale et qui, en somme, dit « Je vais être ferme contre les méchants musulmans qui ne sont pas comme tous les autres musulmans. Et ne commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que l'islam était un problème. J'ai jamais dit ça. S'il faut quand même qu'on parle d'islam, eh ben je vais en parler. Parce que c'est un sujet central dont on parle trop peu. Nous, les politiques, on doit être courageux. Parce que sinon, d'autres en parlent. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait que qui ait le droit d'en parler. Et de dire du mal de l'islam. Moi aussi, je peux en dire. Pour gagner de l'audience, eux, ils ont le droit de le faire. Des revenus publicitaires. Alors nous aussi, on veut parler de l'islam. Et gagner des points de sondage qu'on espère convertibles en voix lors des prochaines élections, auxquelles je ne pense pas du tout en ce moment. Pensez-vous, il y a quand même le Covid. J'ai autre chose à foutre que de penser aux élections. Ah oui, je disais donc, l'islam, ben c'est un problème en France, un problème qui intéresse vraiment une grande partie des Français. C'est un problème majeur. Vous savez qu'il y a des imams qui exercent aujourd'hui en France et qui n'ont jamais fait d'éducation civique au collège. Vous le savez ça ? Donc voilà, j'ai la solution. Rééducation républicaine. Les enfants dès l'âge de 3 ans vont revenir dans les écoles de la République où on leur redistribuera des bonnets phrygiens. Et ils n'auront pas le droit de les mettre à l'envers, parce que quand on met un bonnet phrygien à l'envers, on ne voit plus rien. De plus, Emmanuel Blanquer, qui est mon ministre de l'Éducation nationale et qui s'habille toujours très bien, distribuera dès la 6e des tenues républicaines constituées d'habits républicains non troués aux genoux et à col roulé pour ne pas voir les poitrines. Les barbes, oui, seront interdites dès le CE1. On va donc abaisser l'âge légal du port de la barbe à l'école, qui jusqu'ici crée trop de contre-sociétés dans les cours de récréation. Alors, c'est qui a dit que je parle jamais de l'islam ? Et Emmanuel Macron, qui en vrai n'a pas dit tout ça, mais presque, a par contre vraiment dit « De toute façon, l'islam est une religion qui vit aujourd'hui une crise partout dans le monde ». Oui, il a vraiment dit ça tranquillou et il a ajouté que l'exécutif va répondre aux problèmes identifiés par un projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres le 9 décembre et, décembre et devrait être baptisé Laïcité et Liberté. Ah ouais, tiens, c'est original comme nom pour une fois. Et donc voilà, c'est fini et on va pouvoir maintenant parler de sujets importants, intéressants et même révoltants. Ça se passe à Toulouse et c'est une histoire... C'est une histoire triste, triste comme un juge.
Et oui, parce que les juges... Eh ben attends, ce cellophane sur mon micro, à chaque fois, ça fait frotte-frotte, là, ça m'énerve. À Toulouse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a 7 copains-copines qui viennent de prendre 2 mois de tôle. Ferme. 2 mois de tôle ferme, pourquoi? Eh ben, parce qu'ils et elles ont été arrêtés sans preuve et ont été accusés de nombreux tags et affiches contre les flics, les juges, les matons, les bourgeois, l'État et compagnie. On peut vous dire un petit peu pour vous donner des idées, et si jamais vous avez envie de coller ces affiches, bah, par exemple sur les murs de vos villes, il y avait écrit « Le feu tue les virus, brûle ton comico ». Ou alors « Balance ton smartphone, bat pas ton voisin, ne relevons pas l'économie, détruisons-la ». Avec ou sans masque, ce monde est irrespirable. Crève les boucaves, squatte ton préfet, plutôt mourir libre que vivre confiné. La police tue, confinons-la, accable, le pire des virus, c'est l'autorité. Je crache sur l'État pourvu qu'il en crève. Ou enfin, je me sens dans un drone d'État. Je vais aller vite, mais en gros, du coup, voilà, il y a 7 personnes qui se sont retrouvées en garde à vue parce qu'elles ont été boucaves par un voisin et du coup, qui ont pris 2 mois de prison ferme juste pour, sans preuve, avoir peut-être collé ces affiches-là. Ce qui se passe, c'est que du coup, même pendant leur procès, il y a une personne qui, au moment de la condamnation, eh ben, était parfaitement choquée et qui, du coup, s'est un petit peu révoltée et elle-même vient de prendre 3 mois avec sursis. Du coup, si vous avez envie d'écrire aux copains et aux copines qui sont en tôle à Toulouse, eh ben, vous retrouvez leur numéro d'écrou sur yata.info. Yata, ça s'écrit IAATA.info, mais même, à mon avis, vous tapez 7 compagnons, compagnonnes, partant tôle, suite à des tags et des affiches, dans le moteur de recherche que vous voulez, et vous trouverez tout ça sans souci. Courage à elle et eux.
K93. Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Rubrique nucléaire avec cette semaine. Et bien en fait, on vous parle de la semaine prochaine qui sera une semaine anti-nucléaire à Bure. Donc oui, du 5 au 11 octobre à Bure, dans la Meuse. Donc on rappelle, Bure, c'est un petit village d'une moins de centaine d'habitants. Dans la Meuse, donc dans la région Grand Est, où l'ANDRA, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs, prévoit de construire CIGEO. Alors, vous avez toutes les infos, je le dis d'ores et déjà maintenant, je le redirai après, sur le site burburbur.info. Donc CIGEO, c'est quoi? C'est, on se rappelle, un gros centre industriel prévu pour enfouir très très profond dans l'argile les déchets radioactifs produits par l'industrie nucléaire. Alors, sachant que, en plus, il faut savoir que cet été, il y a eu une demande déposée par l'ANDRA pour déclarer d'utilité publique ce grand projet CIGEO. Demande déposée le 3 août en catimini. Alors donc l'ANDRA veut faire déclarer d'utilité publique ce projet qui est pourtant contesté depuis des années, mais qui est présenté comme la solution de référence qui a été retenue après un petit ch'touille d'années d'études de recherche et encore des recherches pas menées dans toutes les directions.
Et du coup, en fait, pourquoi il dépose aussi cette demande d'utilité publique? Parce qu'en fait, Bure, c'est devenu un symbole de beaucoup de luttes antinucléaires, mais c'est également devenu le point d'orgue des nucléocrates qui veulent, par l'acceptation de ce projet, valider la course actuelle vers le nucléaire, donc qui date déjà des années 70, bien même avant. Et du coup, cette déclaration d'utilité publique, ça va juste entériner cette course vers le nucléaire et ça va valider le côté illégitime de la contestation qui est déjà hyper compliqué en ce moment.
Voilà, sachant qu'en plus une dupe surtout c'est quoi que ça permet? Ça permet des expulsions. Donc CIGEO, on l'a compris, c'est pour enfouir les déchets radioactifs les plus dangereux qui existent. Mais ces déchets-là, en fait, il faut savoir que c'est qu'un tout petit volume par rapport à tous les déchets nucléaires produits. Et en fait, il n'y a pas qu'à Bure, d'ailleurs, du coup, d'ailleurs, il n'y en a pas pour l'instant encore à Bure, mais ce ne sera pas le seul centre de stockage de déchets. Il faut savoir que, par exemple, proche d'ici, dans le Bugey, il y a l'installation ICEDA, installation destinée à conditionner et entreposer des déchets métalliques radioactifs de moyenne activité à vie longue, qui a été autorisée par l'autorité de sûreté nucléaire à entrer en service cet été aussi, le 28 juillet 2020. Et alors ICEDA, dans le Bugey, sur le site de la centrale du Bugey, a reçu la semaine dernière son tout premier colis de déchets radioactifs, tout chaud, en provenance de la centrale de Chaux, sans mauvais jeu de mots. Des déchets qui sont issus en fait carrément de la cuve du réacteur d'une centrale de Chaux qui est en démantèlement. Donc comme quoi, même si on habite dans le Bugey ou en région lyonnaise ou en Rhône-Alpes ou même ailleurs, il y a toujours une bonne raison de venir à Bure la semaine prochaine.
Et oui, et dans cette semaine, on ne va pas parler que d'enfouissement des déchets, puisque c'est quand même l'objectif, c'est de parler de plusieurs luttes anti-nuc, mais aussi de quelques autres luttes. Et donc en fait, parmi les sujets qui vont être abordés, il y a notamment le sujet des mines d'uranium, du nucléaire militaire, des transports de produits radioactifs. Ça se basera sur la base de discussions, de conférences, de projections, des présentations de bouquins, etc. Et donc le but, c'est d'avoir un échange sur différentes luttes. Donc il y aura aussi des luttes qui sont pas d'ordre directement du nucléaire, comme par exemple le THT. Et on peut vous dire de donner quelques exemples dans le programme de ce qu'il y aura pour vous donner envie de venir.
Mais oui, des réjouissances.
Alors ça commence le lundi, mais par exemple le mardi, je ne veux pas vous parler du lundi.
Attends, moi le lundi, je sais qu'il y a, par exemple, il y a une super balade de présentation de l'emprise du laboratoire de l'ANDRA, par exemple.
Voilà, ça pour vous mettre dans l'ambiance. Et le mardi, on pourra parler des armes nucléaires. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça fait partie de la lutte anti-nuc aussi.
On pourra aussi faire une visite guidée d'expo, poser des questions sur les travaux à venir de CIGEO.
Voilà, on y parlera aussi des mines d'uranium, puisque l'État français exploite évidemment des mines d'uranium pour le précieux minerai. Et ça se soldera d'ailleurs le soir par une projection qui s'appelle Areva au Niger, puisque évidemment on exploite les mines d'uranium ailleurs.
On pourra parler aussi le mercredi de trains et de Castor, les trains Castor qui transportent le nucléaire. On parlera aussi de lutte en Allemagne à Gorleben, toujours autour du transport du nucléaire, mais aussi de guides pour la défense des riverains qui sont exposés à ces convois nucléaires.
Il y aura aussi la CRIRAD qui sera présente, qui est une association dans la Drôme qui existe depuis le Tchernobyl 86. Et puis on aura aussi les travailleurs et les travailleuses du nucléaire dans le domaine de la prestation dans le nucléaire avec l'association Ma Zone Contrôlée. Donc c'est assez important aussi qu'ils soient là et qu'ils parlent de ces conditions de travail-là.
Il y aura plein de temps, des temps soins et luttes, des temps pour parler de la vie, de la lutte contre le projet de piscine centralisée, des conférences gesticulées, des discussions croisées et évidemment des concerts. Bref, il y a aussi des temps qui ne sont pas encore au programme, qui, vous l'avez compris, est riche et très alléchant. Il y aura des espaces d'accueil pour toutes et tous. Allez-y, toutes les infos et même bien d'autres choses encore sont sur le site burburbur.info.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et oui, on va à l'international très vite parce qu'on a un retard très important, mais on va essayer de tout vous dire, tout ce qu'on voulait vous dire, parce que c'est quand même important. Du coup, on commence par l'Italie, où on voulait vous raconter deux histoires de répression. C'est la justice italienne qui réprime les mouvements. Et du coup, ces deux histoires, elles se passent en Italie, mais en fait, elles ont bien de conséquences en France. Et surtout, on peut les soutenir activement depuis la France. Donc, du coup, d'abord, on va vous parler très rapidement de Vincenzo Vacchi, dont vous avez sans doute entendu parler parce que ça fait un an et demi que l'État italien s'acharne sur ce militant. En fait, Vincenzo Vecchi, il est italien, il habite en Bretagne depuis plusieurs années et en août 2019, il a été arrêté suite à un mandat d'arrêt européen émis par l'Italie. Et pourquoi il y avait ce mandat d'arrestation européenne, c'est parce que il avait participé à une manifestation à Antifa à Milan,
ouais,
en 2001
non, 2006 je crois
2006 ouais. On sait plus, pardon. Et il avait été condamné à 4 ans de prison, peine qu'il avait purgée. Et en 2001, il avait participé à la manifestation contre le G8 à Gênes. Et il a été condamné en 2009 à 12 ans et demi de prison ferme grâce à une loi qui émane du code Rocco qui avait été approuvée par le régime fasciste en 1926. Du coup, il a été accusé de concours moral en dévastation et pillage, c'est-à-dire qu'il était présent à des moments de la manif, il y a eu des dévastations et pillages, soi-disant, et du coup, il a été considéré comme ayant participé activement à ces actes. Petit rappel, G8, Gênes 2001, un mort, Carlo Giuliani, tué par la police, des centaines de blessés par la police, des centaines d'arrestations, et la CEDH qui condamne plusieurs fois l'État italien pour ne pas avoir condamné les responsables, et pour des actes de torture et traitement inhumain. Vincenzo Vecchi, il a été libéré 3 mois après, mais en fait on en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui même le tribunal d'Angers, il réexamine la validité de ses mandats d'arrêt européens, et donc s'ils sont considérés comme valides, Vincenzo risque d'être extradé vers l'Italie et donc devoir effectivement passer 12 ans et demi de sa vie en prison pour avoir participé à une manifestation. Donc on n'en dit pas plus, mais vous pouvez écouter en podcast l'émission des Pays sur Terre d'hier, et surtout vous pouvez aller sur le site Comité Soutien Vincenzo, il y a un petit tiré entre chaque mot.org, et en fait vous avez toutes les news, plein d'informations sur ce qui se passe, et vous aurez sans doute la décision du tribunal. Et après, très très rapidement, une info qui nous vient du Piémont du mouvement Notav, où en fait l'une des porte-paroles du mouvement, qui s'appelle Dana Lauriola, a été arrêtée le 17 septembre. En fait, Dana, elle avait participé avec d'autres militants le 3 mars 2012, attention, à une action de péage gratuit sur l'A32, l'autoroute qui relie Turin à Bardonecchia, qui traverse la Val de Suse. C'était une manifestation de protestation contre la ligne TGV Turin-Lyon, du coup dans le cadre du mouvement Notav. L'action a duré au total 20 minutes et on estime qu'elle a causé une perte de 777 euros de péage manqué, que ensuite le collectif a remboursé. Malgré tout cela, Dana, elle a été condamnée à, attention, 2 ans de prison ferme. Et du coup, le 17 septembre, les filles sont arrivées chez elle à 5h du matin. Elles ont prélevé de chez elle et voilà, elles se retrouvent en isolement depuis. Du coup, il y a eu des manifestations de soutien. C'est une peine définitive, du coup, ça va être difficile de la casser. Mais il y a en même temps Amnesty International qui a aussi dénoncé l'arrestation et le climat de criminalisation du droit à la liberté d'expression. Et voilà, vous pouvez suivre un peu les news de tout cela sur le site notav.info, qui est en italien. Mais vous pouvez quand même essayer de prendre des nouvelles. Et nous, on vous en donnera aussi.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non ?
Il faut plus de gaz à la ville dans le Texas, dans la ville d'Arlington. Puisque, en fait, Total a fait une demande pour faire une ouverture de 3 nouveaux puits de forage sur un site. Donc, 3 puits de forage de gaz de schiste avec la fameuse technique de fracturation hydraulique. Et en fait, cette demande-là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette ville, pour vous mettre un peu le contexte, cette ville-là, Arlington, elle fait partie d'une ville qui compte plus d'une 60aine de puits déjà, donc dans la ville, enfin proche de la ville, dont une moitié est déjà exploitée par le groupe français Total, qui est implanté là-bas depuis 2010. Alors pourquoi là-bas ? Eh bien parce que Arlington, c'est une ville donc, qui fait à peu près 400 000 habitants, proche de Dallas, qui est située en plein cœur du Barnett Shale, qui en fait, pour son plus grand malheur, une région qui est très riche en hydrocarbures qu'ils appellent non conventionnels, à savoir le gaz de schiste, et qui a servi de base à la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Et donc voilà, ça se passe là-bas, et donc Total refait une nouvelle demande dans cette ville-là. Et alors, cette demande... je suis obligé de raccourcir un peu. En fait, elle se fait évidemment dans une. Ah bon, c'est parfait alors. Il me reste une minute, bordel, j'ai 4 pages à vous dire.
Non, il dit qu'il n'est pas là.
Non, mais alors, cette demande-là aussi, il faut savoir qu'elle arrive dans un contexte où il y a eu, notamment en mai 2020, donc, le meurtre de George Floyd, donc, qui a été tué par la police à Minneapolis, et qu'en fait, il y a eu des décisions prises dans plusieurs villes aux États-Unis d'avoir plus d'équité, comme ils disent, sur le traitement, donc d'équité raciale, en fait, sur le traitement des différentes populations, etc. Et donc, cette ville-là, elle avait pris aussi des décisions, notamment sur les besoins médicaux et sociaux, et qu'en fait, cette demande de Total, elle tombe en plus dans ce contexte-là qui fait que les populations locales se sont vachement plus insurgées que d'habitude, puisque effectivement, Effectivement, avant, ça passait un peu crème, ces trucs-là, puisque les populations n'étaient absolument pas informées de l'implantation de puits de forage dans certains quartiers. Et donc, tous les quartiers concernés à Arlington, concernant l'implantation de ces puits de forage, qui sont quand même à côté des villes, hein, et quand je dis à côté, c'est-à-dire que c'est à 50 mètres des habitations, que les populations dénoncent directement que c'est à côté des crèches, qu'il y a des qu'il y a beaucoup de conséquences sur la santé. Alors, je sais pas si j'ai le temps de développer. En fait, ça rejoint aussi les conséquences sur la santé, rejoignent les conséquences, les symptômes, notamment du Covid, puisqu'il y a eu un dossier qui est sorti qui disait explicitement que ces industries gazières, etc., utilisaient le Covid alors attendez, je vais retrouver mes notes exactement. pour contourner la surveillance des risques environnementaux provoqués par leurs activités. Et donc en fait, là-bas, dans ce type de ville comme Arlington, on est complètement dans ce truc-là où les populations touchées sont les populations en marge et dans les quartiers défavorisés, qui sont fortement touchés d'ailleurs par le Covid et qui se coltinent en plus des puits de forage pétrolier qui sont à 50 mètres de leur baraque. Et donc voilà. Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé en début d'été à Arlington va peut-être faire un précédent judiciaire, puisque en fait, l'État fédéral, les lois fédérales interdisent aux États, donc notamment par exemple à la ville d'Arlington, d'interdire l'implantation de ces puits de forage. Mais il faut savoir que quand même Total a réussi à faire pendant ce temps-là à créer 7 puits de forage supplémentaires sur des sites dont il avait déjà l'exploitation, et c'est passé comme une lettre à la poste, puisqu'il n'avait pas besoin de demander les autorisations puisque c'était déjà sur son terrain. Et donc du coup il y a 7 puits qui ont popé pendant ce temps-là en squeezant le conseil municipal de la ville plus toutes les audiences publiques.
Et maintenant, c'est l'agenda.
Et ouais, l'agenda, très rapidement. Rappelons-nous que demain, il y a une manif, une marche de sans-papiers, sans papiers, qui part à 14h30 de la place Bellecour.
Et la semaine continue.
Radio Canu. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Raka ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Le ACAB, cette semaine, c'est à Canu, on est anti-nucléaire avec Buin.
Et tout de suite, c'est Rotar Pollution.
Une mission spéciale sur Yvette Hörner.